Avec les conciles œcuméniques, le pape est l'autorité théologique suprême dans l'Église catholique. Et pourtant, il ne rédige ni encyclique, ni discours, ni aucun autre document à contenu théologique sans consulter des théologiens professionnels. Et en tout premier plan, le théologien de la maison pontificale, expert personnel du pape, qui l'aide à voir si ce que le pape veut dire est conforme à la révélation divine telle qu'elle se trouve exprimée dans l'Écriture sainte, la tradition de l'Église et le magistère des pontifes romains. Pendant 15 ans, le cardinal Georges-Marie Cottier a servi Jean-Paul II puis Benoît XVI comme théologien de la maison pontificale à Rome. Son regard privilégié sur les enjeux actuels de la théologie nous aide à voir plus clair dans un domaine qui semble parfois malheureusement obscur aux fidèles. La théologie est-elle un domaine abstrait ?
C'est pas du tout abstrait, puisque le Christ n'est pas abstrait. Hein. Même si on utilise un langage abstrait, parce qu'on a besoin du langage abstrait, mais c'est toujours pour dire quelqu'un, pour dire le mystère de la Trinité, pour dire les mystères de Jésus-Christ, le mystère de l'Église aussi, qui est l'épouse du Christ. Donc tout ça, c'est pas des abstractions. Quand quelqu'un fait la théologie en croyant qu'il joue avec des concepts, je dirais il a manqué le train. Hein.
Ça veut dire qu'il faut faire la théologie en jouant avec quoi ?
Mais on ne joue pas dans la théologie. D'abord, la théologie doit s'inscrire dans la vie totale du chrétien, la vie de prière, la vie liturgique, la participation à la vie de l'Église, dans la communion ecclésiale. Je crois que tout ça, c'est forme un tout. Et dans le fond, faire la théologie, c'est une nécessité surnaturelle, en ce sens que chaque chrétien se pose des questions. Questions qui sont posées par sa foi. Approfondir la foi, se demander qu'est-ce que la foi commande de moi dans telle et telle circonstance. Et cela, c'est déjà théologisé. Alors, la mise en forme, si vous voulez, forme même technique de cela, c'est l'œuvre des théologiens. Mais les questions théologiques sont des questions qui intéressent tout le monde.
Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que la technique, en fait, qui intervient comme stimulant de la théologie, peut-être la philo aussi ?
Mais naturellement, la philosophie, ça a été, dans l'histoire de la théologie, le contact, la stimulation, quelquefois les défis, les objections de la philosophie jouent un rôle capital. Et la pensée philosophique elle-même, dans l'histoire, a été fécondée par la théologie. Le concept de création, qui est un concept biblique d'origine, a eu un impact énorme sur la pensée chrétienne, que les Grecs ont ignoré. Donc il y a une symbiose, tout en étant des choses très distinctes, entre l'activité philosophique et l'activité théologique. Et ils font les distinguer, mais il ne faut pas les séparer.
Récemment, le pape Benoît XVI rencontrait les artistes. Est-ce que l'art aussi a quelque chose à apporter à la théologie ?
C'est clair, parce que je trouve que quelquefois des artistes savent mieux dire que nous, hein, ou ils disent dans leur langage à eux des choses que le théologien le dit avec beaucoup plus de lourdeur. Moi, je pense par exemple à certaines scènes de Fra Angelico. C'est très important de lire par exemple l'évangile. Le protévangile de Luc en voyant certains beaux tableaux de Fra Angelico sur l'Annonciation, etc. On voit comment c'était vécu par l'artiste. Hein. Et il a su le dire avec un autre langage. Même, je dirais, le langage non figuratif a quelque chose à nous dire.
La littérature, la poésie aussi ?
Certainement. Tout ce qui est expression de la vie de l'esprit, d'abord, le christianisme lui-même a inspiré beaucoup d'artistes, d'une manière directe ou indirecte, de sorte qu'ils ont redit le mystère à leur manière. Et souvent, ils ont eu certaines grandes intuitions que peut-être une théologie plus encadrée dans l'université n'a pas eu, pour voir certaines choses, percevoir ou dire. Et puis on a besoin d'images aussi, hein, pas seulement les images picturales, mais les images musicales, les images du langage. Tout cela, ça nous aide beaucoup. Et dans la poésie, il y a la vibration de la personne. Le poète est engagé dans ce qu'il dit. Ça donne une note existentielle à tout ce que nous disons en théologie, il ne faut pas mettre des barrières entre ces activités. Il faut bien les distinguer. On n'est pas bon théologien si on est donc poète, forcément, et vice-versa. Mais ceci dit, un théologien doit être attentif à la poésie, je trouve.
On a parfois l'impression qu'il y a moins de grands théologiens aujourd'hui que, disons, à l'époque du Concile Vatican II.
C'est possible. Maintenant, il faut faire attention. Il y a tout un côté de mass-média qui met en avant. Il faut attendre quelques générations, peut-être, pour rééquilibrer les choses. La question pour moi n'est pas tant qu'il y ait des grands théologiens, la question c'est qu'il y ait des travaux de théologie de qualité. Je vois dans les livres, il y a des livres excellents qui ont été faits sur un problème très particulier par quelqu'un de très compétent qui a fait que ce livre-là, que peu de monde connaît, mais qui sont des perles. Donc il faut faire attention, hein. C'est pas le succès de librairie qui fait un grand théologien.
Et quels sont les grands enjeux, des choses sur lesquelles pourraient travailler des théologiens ou travaillent les théologiens aujourd'hui ?
Je pense à deux choses. Ben, le mystère lui-même, parce qu'il y a beaucoup d'ignorance dans le peuple chrétien. Je crois qu'il y a une dimension, je dirais, catéchétique, hein, comme certains pères de l'Église. On lit souvent au bréviaire des textes de Cyril de Jérusalem, par exemple, qui sont très beaux, les catéchèses. Hein. Ça, on a besoin aussi de ça. Et puis aussi, il y a des problèmes nouveaux. Je pense que la rencontre des religions est tout à fait fondamentale aujourd'hui. La spécificité du christianisme par rapport aux religions, en ce sens que, comme dit Saint Jean, dans la première épître de Saint Jean, hein, l'amour, c'est Dieu qui nous a aimés. Donc l'initiative divine, le thème de la grâce, de la révélation, sont tout à fait fondamentaux par rapport à d'autres religions qui s'expliquent par des aspirations valables, souvent, de la nature humaine. Ce n'est pas la même chose. Je crois qu'il y a une grande confusion actuellement. Et inévitable, d'une certaine manière, parce qu'il y a un brassement des populations, raison de plus pour qu'on soit, les chrétiens soient très au clair sur, pas seulement les théologiens, mais tous, très au clair sur ce qui fait l'identité chrétienne.
Comment est-ce qu'un théologien aujourd'hui peut être créatif tout en restant fidèle à la tradition ?
Mais qu'est-ce que c'est que la créativité en théologie, hein ? Ben, il peut être créatif en soulevant certains problèmes. Je pense par exemple à un chapitre de cette question des religions, c'est le rapport très délicat à établir entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Hein. Donc une théologie d'Israël. Il y a eu beaucoup dans l'histoire d'écrits très polémiques entre juifs et chrétiens. Mais actuellement, il y a, je crois, une porte qui s'ouvre pour une sorte d'attention à l'autre. Hein. Et là aussi, qu'est-ce que ça signifie l'Ancien Testament par rapport à la nouveauté du Christ ? Là, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, la créativité, elle s'exprima dans le don des formules, par exemple. L'année prochaine, dans quelques mois, il y aura la béatification de Newman, qui est une grande chose pour moi. Ben, Newman est un créateur, parce que c'est aussi un grand écrivain, oui. Il avait un don. Il y a de très bons théologiens qui écrivent très mal. Alors, je veux dire, c'est dommage. Mais quand on a à la fois quelqu'un qui a la sensibilité et tout cela, un théologien créatif, c'est un grand esprit qui fait de la théologie.